Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
5, 4, 3, 2, 1, CRT.
Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est Zoom Écologie. Aujourd'hui, trois sujets d'actualité avec tout d'abord un montage de la manif Gilets jaunes Marche pour le climat qui a eu lieu il y a 15 jours maintenant et sur laquelle on voulait revenir avec un petit reportage où on intervient ou un peu les gens qui sont sur place. Un deuxième sujet, autre actualité du moment.
Deuxième sujet, nous ferons donc dans le cadre des grands hommages à Jacques Chirac un petit sujet à partir de son d'archive sur le rôle de Jacques Chirac dans la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique. Thème du nucléaire donc, qui nous occupera pour la seconde grande partie de l'émission puisque nous avons donc deux personnes dans le studio qui vont venir parler avec nous du premier grand rassemblement féministe et anti-nucléaire en France. Donc je vous laisse vous présenter.
Salut, moi c'est Fred.
Salut, moi c'est Milka.
Alors très rapidement, de quoi est-ce que vous allez nous parler?
Du coup, le rassemblement, il a eu lieu le 21 et 22 septembre dernier à Montilly-sur-Saulx, qui est du coup une commune qui est à une dizaine de kilomètres de Bure, qui est du coup un des villages où l'État a programmé de faire une énorme poubelle nucléaire. Voilà, ça c'est un projet qui englobe cinq villages qui sont à cheval entre la Meuse et la Haute-Marne. Et l'idée, c'était de proposer de se rassembler entre personnes donc en mixité choisie, sans mec cis, et voilà.
Ok, très bien, on reparle de tout ça en deuxième partie de l'émission.
Peut-être pour commencer, on avait fait un petit montage de la manif. Bon, alors ce qui s'est passé, peut-être on peut dire deux mots quand même sur cette manifestation. Bon, c'était prévu qu'il y ait une manif gilet jaune le matin même, et aussi une marche climat l'après-midi. Alors les gilets jaunes n'ayant pas pu aller sur les Champs-Élysées, puisque ceux qui ont essayé d'y aller ont été pourchassés par la police pendant à peu près 3 heures, quelque part entre le 9e et le 8e arrondissement, où tout groupe de plus de 20 personnes était immédiatement dispersé, dès que donc, tous les gilets jaunes ont été confisqués. Et donc des gens ont quand même réussi à aller sur les Champs-Élysées. Et très rapidement, l'idée a circulé que pour manifester, il faudrait rejoindre la marche pour le climat. Et ce qui était une idée un peu, on va dire, un peu contrainte le matin, s'est en fait révélé être probablement la bonne hypothèse politique à ce moment-là. Et donc, beaucoup de gens de Gilets jaunes se retrouvaient à la marche pour le climat, ce qui n'était pas forcément très prévu, même s'il y avait des idées de convergence, mais qui étaient plutôt dans l'autre sens. Et bien donc voilà, donc on a fait un petit sujet sur cette convergence qui a eu lieu à la marche pour le climat samedi dernier. Enfin non, il y a 15 jours maintenant, excusez-moi.
Donc là, on est sur le boulevard qui redescend vers les Gobelins. Là, le départ était un peu sport, mais vous, peut-être, vous avez un gilet jaune. Alors, je sais pas si toi, t'es là depuis le début, enfin, depuis ce matin ou quoi. Alors, comment ça s'est un peu passé, cette idée de venir avec un gilet jaune à la marche pour le climat, ce qui n'a pas forcément quelque chose d'évident de premier abord?
Chez les gilets jaunes, il y a beaucoup d'écologistes. Ouais. Bien sûr, il y a des gens qui sont écologistes parce qu'ils pensent que la finance détruit l'humanité, tout simplement. Et que donc, nous, on veut survivre, on veut même vivre, on a même cet espoir fou. Et que pour ça, eh ben, il faut s'attaquer aux vrais responsables. Et les vrais responsables de la destruction de la Terre, C'est la finance abusive, c'est la finance qui détruit tout. C'est une morale, c'est un monde qui n'a plus de morale, voilà. Les jeunes, ils sont aussi écologistes. C'est
que pour toi, en fait, les responsables sont les mêmes, que ce soit nos conditions de vie et la destruction de l'environnement.
Ce sont les mêmes, bien entendu. Ce n'est pas les pauvres gens et les pauvres cons, pour parler comme ça, qui détruisent l'humanité, les animaux, les insectes, les oiseaux et toute la terre. C'est pas nous les pauvres cons, hein. C'est Monsanto. Ce sont les responsables politiques qui défendent le capital, voilà.
Parce que je te pose cette question parce que c'était pas forcément évident, parce que le mouvement des Gilets jaunes tel qu'il est parti fin novembre, il est parti notamment à l'encontre d'une mesure réputée environnementale qui était la taxe carbone et son expansion. Alors, est-ce que tu pourrais me dire un peu le cheminement qu'il y a de lutter, enfin, sortir en la rue, je ne sais pas depuis quand tes gilets jaunes, mais en tout cas...
Décembre.
Donc sortir en la rue dans le contexte d'une contestation d'une taxe réputée environnementale et venir à la marche pour le climat. Est-ce que tu peux expliquer un peu la démarche qui fait qu'on passe de l'un à l'autre?
Oui, parce que la taxe carbone en question n'est absolument pas une taxe écolo. C'est une taxe qui appauvrit déjà les pauvres et qui permet de continuer... ce que les riches circulent sur leurs avions, circulent sur leurs bateaux, fassent des accords de commerce international qui pourrissent entièrement la planète et qui mettent l'agriculture au service toujours de cette finance. Donc la taxe carbone n'est pas une taxe écolo, c'est une taxe punitive pour les pauvres.
D'accord, voilà. D'accord. Et donc, pour toi, donc il y avait quelque chose de logique à venir quand même à la marche pour le climat.
C'est tout à fait logique. Les Gilets jaunes, ils défendent d'abord les pauvres. Mais les écologistes défendent aussi les pauvres, parce que ce sont les pauvres qui vont mourir en premier de
d'accord.
la destruction qui est en train de se produire. Voilà. C'est pour ça que c'est le même combat.
Bah, super, bah, je te remercie bien.
Écoféministe qui donc est dans la manif climat. Est-ce que vous pouvez du coup me raconter un peu qu'est-ce qui vous a amené ici et pourquoi avoir choisi de défiler en tant qu'écoféministe?
C'est la première fois que je défile. J'ai jamais fait de marche pour le climat de toute ma vie. Et pour moi, ça a beaucoup plus sens de défiler en tant que féministe que simplement personne touchée par le climat. Parce que les femmes, elles ont une place pas particulière en fait dans la catastrophe écologique qu'on vit aujourd'hui. Donc je pense qu'on est toutes là pour ça, parce qu'on a l'expérience de ça d'une certaine manière, et qu'en même temps on a envie de sauver la planète aussi. Mais en tant que femme, c'est quelque chose de bien spécifique, et c'est ce qu'on voulait montrer aujourd'hui.
Ok, alors du coup, pour décrire, vous êtes toutes maquillées avec des jolies couleurs, vous avez des belles couronnes de fleurs, etc. Est-ce que vous pouvez juste... qu'est-ce qui vous a donné envie de vous... enfin, je sais pas, du coup, d'apparaître comme ça et de vous présenter comme ça?
Alors en fait, ce qui se passe aujourd'hui pour le climat, la biosphère, la terre, les animaux humains, non humains, c'est catastrophique. Et ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on pouvait avoir un peu de joie, un peu de bonne humeur, qu'on pouvait fêter ça en fait. Qu'on pouvait juste manifester dans la rage, dans l'indignation, mais aussi dans l'amour, dans l'empathie et dans tout ce qu'on pense être aussi un bon message en fait.
Ok, super, merci. Et alors, est-ce que vous pouvez juste redire un peu ce qu'il y a d'écrit sur vos pancartes pour les gens qui écouteront? Ouais, super.
Il y a écrit « Ni ma chatte, ni l'Amazonie, rasée est une barbarie ».
C'est quoi la question? Ce qui est écrit sur ta pancarte?
Ni la terre, ni les femmes, ni la terre ne sont des terres de conquête.
La cape est pleine, ça va saigner.
Le vent. Petit vois-tu ce feu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il va bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe.
Chili vert, drapeau vert.
C'est ça? Il y a beaucoup de drapeaux verts.
Europe et l'écologie. Ah oui, c'est juste Europe Écologie.
Bah ouais, c'est ça, les drapeaux verts.
Et du coup.
Et là, on marche. Et là, c'est la marche.
Alors, est-ce que vous pourriez dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui manifester à cette marche?
Parce que déjà, c'est un combat un peu du quotidien. Écologiste engagé depuis plusieurs années, donc le climat.
On est content que tout le monde s'empare de ce sujet-là. Et c'est bien, ça fait du bien de voir qu'il y a du monde pour pouvoir dire maintenant ça suffit, on arrête les bêtises et on commence à changer de modèle quoi, pour avancer.
Okay. Et sur la façon de. Sur la façon, là, on va dire, de se mobiliser, qui est donc, la forme d'une marche, est-ce que c'est un choix délibéré de prendre ces formes-là de manifestation, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt contraint dans le contexte actuel?
C'est un moyen de mobiliser en fait et d'aller au-delà des partis et des associations en fait. Vraiment, c'est un moyen de faire converger tout le monde, des gens qui ne sont pas forcément engagés dans des associations, dans des partis. Et je crois que c'est un moyen ludique, agréable, hein, de pouvoir se retrouver et de montrer une volonté commune en fait.
Et une fois que la volonté a été, on va dire, un peu démontrée, donc c'est c'est peut-être la cinquième marche pour le climat, un truc comme ça. Et est-ce que la volonté a pas déjà été démontrée?
Si, mais visiblement ça ne fonctionne pas. On s'aperçoit que les décideurs ne prennent pas des décisions qu'il faudrait. Donc en fait non, il faut continuer quoi.
Donc il faudrait continuer à marcher.
Toujours, toujours.
Et ceux qui ne nous écoutent pas?
Ah bah alors là, je sais pas, il va falloir trouver d'autres formes, mais à un moment donné, je crois qu'ils vont être obligés quand même de se bouger. Quand on voit la mobilisation dans le monde entier, là, juste entre hier et aujourd'hui, si, ils vont être obligés de commencer à bouger là.
D'accord. Et le fait qu'ils aient pas du tout bougé suite à la manif du 16 mars, par exemple, pour toi, ça remet pas en cause le fait qu'il faille organiser des grandes marches pour le climat?
Je ne sais pas répondre là, c'est compliqué. Enfin, je crois que les marches, il faut les continuer. On n'a pas d'autre pouvoir en tant que citoyen de toute façon de le faire. Quoi. On peut pas. Alors après, on peut passer dans des mouvements extrémistes et faire la révolution. Mais là, aujourd'hui, en tant que citoyen, à part les élections et puis ce type de mouvement, on n'a pas grand-chose d'autre à proposer pour pouvoir donner notre avis et faire avancer les choses.
Deuxième service de la climat pour tout le monde.
Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez tous à l'avant de la manif. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour raconter un peu, je sais pas, toi, tu as vu quoi?
Bon, pas grand-chose, hein, comme d'habitude. On s'est pris des gaz, puis on est. Enfin, c'est toujours la même chose. Hein,
T'es pas tout à l'avant. Parce que nous, on essayait juste d'atteindre l'avant, et avant qu'on atteigne l'avant, en fait, tout le monde reculait. Parce que tout le monde s'était fait gazer, on entendait des explosions. Et on s'est dit, en fait, nous, on n'est pas équipés parce que. Enfin, la violence des policiers, c'est pas la même qu'il y a un an, c'est pas la même qu'il y a deux ans. Et c'est une violence qui était déjà dans les quartiers populaires, mais maintenant elle nous atteint nous. Et c'est juste une violence qui existait déjà, mais qui se généralise. Et c'est ça qui est effrayant. Et c'est ça qu'on se rend compte avec le mouvement des Gilets jaunes. Et là, vous voyez, il y a une grenade de lacrymo qui vient d'exploser. Et on est tous là, nassés, on peut à peine reculer. On avance de 2 mètres par 10 minutes. Et on va juste suffoquer en fait, alors qu'on n'a rien fait. On est là, on essaye de sortir de cette merde.
Ok, merci. Je vais couper parce que moi aussi, il faut que j'arrive à respirer. Alors, je suis avec quelqu'un qui a une pancarte qui est rigolote. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a sur ta pancarte?
Alors, sur la pancarte, il y a écrit « S'ils nous prenaient au sérieux, ils nous auraient gazé ».
Et de l'autre côté?
Et de l'autre côté, c'est pas une pancarte qui sauvera la planète.
Ok. Et est-ce que tu peux juste nous expliquer pourquoi tu as écrit ça sur ta pancarte?
Bah, l'idée, c'est un peu de faire de l'ironie, parce que finalement, la limite des marches pour le climat, de l'action pacifique, c'est que... Jusqu'à présent, on n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit. On n'a aucune inflexion sur le modèle économique. On n'a pas de vraies mesures pour le climat, pour la transition énergétique. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un peu de dérision. Finalement, je participe à la marche, mais je suis pas dupe.
Petit vois-tu ce feu de bois auquel nous sommes tous enchaînés. Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons, il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, 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 tu comme il penche des tire fort, il va bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe.
Season de Charlie XCX. Vous êtes toujours sur Radio FPP 106.3 FM et nous venons avec ce morceau d'entamer la seconde partie de l'émission, donc à thème nucléaire. Et pour commencer, un petit rappel donc dans le cadre des grands hommages à Jacques Chirac sur les essais nucléaires dans le Pacifique. Alors on va vous présenter un petit montage à partir de son d'archives sur ces essais nucléaires donc qui ont lieu entre 1966 et 1996 sur les atolls de Mururoa et Fongatofa, donc en Polynésie française, qui a un ensemble d'environ 120 îles, atolls, qui font que 2000 km² dans le Pacifique, mais qui permettent à la France d'avoir une zone d'économique exclusive, donc pour le commerce et les militaires, qui fait à peu près la surface de l'Europe. Donc entre 66 et 96, 193 essais, 46 en plein air et 147 dans des puits creusés sous la mer. Les essais s'arrêtent sous Mitterrand, mais en juin 95, juste après sa réélection, Jacques Chirac annonce que ses essais vont reprendre. On l'écoute.
Êtes-vous sûr d'avoir pris la bonne décision au bon moment ? Et cela ne risque-t-il pas de peser sur la politique étrangère de la France ?
Sur ce dernier point, je ne le pense pas. Je peux comprendre l'émotion de tel ou tel quand elle est sans arrière-pensée, même si je ne la partage pas. La paix depuis un demi-siècle est fondée sur la dissuasion nucléaire. Et un grand pays moderne, comme la France, qui a la chance d'avoir une dissuasion nucléaire de très haut niveau, a à la fois par là même une sécurité et un poids politique dans le monde qui sont deux éléments essentiels de l'avenir d'une nation. En avril 92, président Mitterrand, pour des raisons que je n'ai pas à critiquer, bien entendu, avait interrompu la dernière série d'essais et donc annulé les 8 derniers essais, ou les 7 ou 8 derniers essais qui étaient programmés et qui devaient être faits. Qui devait être fait pour quoi faire ? D'abord pour tester l'arme qui dorénavant va équiper l'ensemble de notre force sous-marine. Vous admettrez que c'est tout de même une nécessité. Ensuite pour s'assurer que les amorces de nos armes pourront vieillir normalement. C'est un problème de fiabilité, de sûreté, de sécurité de nos armes qui devait être contrôlé. Et enfin, pour franchir, et il fallait de ce point de vue 4 essais supplémentaires, le seuil qui nous permet d'accéder, comme les Américains, les Anglais, les Russes, à la technologie de la simulation.
Madame, Monsieur, bonsoir. La France a donc procédé au premier de ses essais nucléaires annoncés dès le mois de juin par le président de la République, M. Jacques Chirac. Le tir sous-marin a eu lieu hier soir à 23h30, heure de Paris. Passons à la Polynésie française maintenant. Hier matin a papeté la situation, la manifestation des indépendantistes qui protestaient contre les essais nucléaires français a finalement tourné à l'émeute. Le mot n'est pas trop fort. D'abord sur l'aéroport qui a été complètement détruit, suivi d'un saccage en règle du centre-ville. Reportage Thierry Tulier.
Ils sont 200 à 300, dont beaucoup de jeunes. Et ils ont forcé les grilles qui protègent le tarmac de l'aéroport. Très vite, nous sommes en début de matinée, les manifestants prennent d'assaut les appareils qui y stationnent. Le face-à-face dégénère, les maigres forces de l'ordre sont débordées, parfois molestées. Pendant ce temps, dans l'aéroport, d'autres groupes de manifestants investissent l'aérogare. C'est le début des émeutes.
Le résultat de Chirac, ça. Sa faute.
C'est le paradis. Pourquoi ils viennent faire la bombe nucléaire ici ? On les deux mettre en France.
Maintenant, les gens veulent de la violence. Chirac veut de la violence, il va là-bas.
Une dizaine d'établissements sont en feu, tandis que les légionnaires arrivent de Mururoa, mais pour beaucoup, il est déjà trop tard.
La France a donc procédé à son 6e essai nucléaire la nuit dernière sur l'atoll de Fangataufa, le plus puissant de la série. Aussitôt, les protestations habituelles se sont élevées d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du Japon. Patricia Charnel.
4, 3, 2, 1, CRT.
C'était donc hier soir à 22h30, heure de Paris, le 6e essai nucléaire français sur l'atoll de Fangataufa, à 40 km au sud-est de Mururoa. C'est le tir le plus puissant de cette ultime série qui a débuté en septembre dernier. Deux objectifs étaient annoncés, valider la tête nucléaire qui doit équiper les missiles, les nouveaux sous-marins nucléaires, et mettre au point la simulation en laboratoire. Plusieurs pays ont condamné l'essai français, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, les Philippines, l'Indonésie et la Norvège. Dès aujourd'hui, les scientifiques vérifient si l'essai a permis d'atteindre le but fixé. Ce tir pourrait être le dernier. En octobre, Jacques Chirac, interrogé par la chaîne américaine CNN, déclarait que la France pouvait se contenter de 6 essais au lieu des 8 envisagés dans un premier temps. Officiellement en tout cas, la campagne d'essais doit s'achever fin février, puis la France signera le traité d'interdiction totale des essais nucléaires, actuellement en cours de négociation à Genève.
Certains nous disent que nous allons polluer le site du Pacifique, mais chacun sait que nous avons toujours admis, et je les invite à nouveau, que les scientifiques du plus haut niveau ont toujours constaté que nos essais n'apportaient strictement aucune pollution dans l'environnement du site de Mururoa.
Situé dans l'archipel des Tuamotu, l'atoll de Ao est en cours de dépollution depuis 7 ans. L'armée a rasé le centre d'expérimentation du Pacifique, rendu inutile par l'arrêt des essais nucléaires, mais on a laissé derrière 150 000 mètres cubes de terre polluée à décontaminer. Les sols et le poisson sont imprégnés, la santé de 1 200 habitants est menacée. C'est pourtant là qu'un investisseur chinois projette une industrie aquacole géante pour concurrencer le saumon de Norvège. Lors de sa visite à Tahiti en février 2016, François Hollande soutient ce projet. Mais les experts redoutent maintenant une pollution au plutonium. Mais souvenons-nous que dès 2012, une étude, l'étude Artelia, mettait en garde les habitants contre la pollution aux PCB et aux métaux lourds et recommandait aux habitants de ne plus manger de poissons du lagon plus d'une fois par mois.
Lors d'une réunion sur la décolonisation à l'ONU, la Polynésie française demande des comptes à la France.
Le 2 octobre, nous avons intenté une plainte devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Ce procès a pour but de traduire devant la justice tous les présidents français en vie depuis le début des essais nucléaires.
En 30 ans, l'armée française a effectué 193 essais nucléaires dans les atolls de Mururoa et de Fangataufa. Les retombées radioactives ont touché les 5 archipels de la Polynésie. Une catastrophe écologique et humaine. Chaque année, 500 nouveaux cas de cancer y sont détectés, soit 2 fois plus que dans les îles Fidji voisines. Une dette nucléaire que l'actuel président polynésien préfère minimiser.
En tant que pays autonome au sein de la République française, nous reconnaissons que l'État français est un bon et loyal partenaire.
Un bon et loyal partenaire qui rechigne à prendre ses responsabilités. Depuis 2010, sur 1 000 000 de dossiers d'indemnisation déposés, seuls 19 ont abouti. 14 concernent des militaires français, 5 des Polynésiens.
Obsession. Elle ne pense qu'à ça. Elle n'endort plus la nuit. Elle me gâche la vie. J'en ai plus qu'assez. C'est une vraie maladie. Rien ne lui fera changer ta vie. Je ne sais pas ce qu'il y a pris. La seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. J'attends 2007, c'est mon seul espoir de sortir du brouillard. C'est ma dernière chance, faut que j'aie confiance. J'aimerais tellement lui faire plaisir, mais je n'ai pas assez de relations. Car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison.
horizon.
On vient d'écouter Didier Vampa et le souhait qui a hélas pas pu se réaliser suite au départ prématuré. Avant les échanges judiciaires du président Chirac. Est-ce que vous avez quelque chose
Sur les essais nucléaires en Polynésie, entre guillemets, officiellement Polynésie française. Donc évidemment, les habitants et les habitantes ont payé toujours le prix fort. Et d'ailleurs, il y a toujours l'État français qui, par l'intermédiaire de son armée, empêche de prendre faire des contrôles sur cette zone. L'atoll de Mururoa est toujours surveillé par des militaires et il est interdit de s'en approcher à moins de 20 ou 40 000 nautiques, ce qui empêche donc les personnes qui le voudraient de prendre des échantillons d'eau et de contrôler la radioactivité de la zone.
C'est bien la preuve que ce n'est pas pollué.
Exactement.
Quand le reportage, on ne voit pas, parce qu'à la radio, il n'y a pas les images, mais il y a deux choses qui sont, enfin même trois, qui sont assez frappantes. La première, c'est que le reportage qui a été passé la question en son intégralité, à aucun moment n'est évoqué le pourquoi il y a une émeute à Papeete. C'est-à-dire qu'il y a une émeute, c'est vraiment un retour à Papeete ou des événements, il y a une émeute et on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est des quelques personnes interviewées qui disent, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une introduction du sujet qui dit que c'est dans le contexte des essais nucléaires. C'est assez étonnant. Et le deuxième élément frappant, c'est de voir des outils de la gendarmerie qu'on ne voyait pas en métropole jusqu'à très récemment, et à savoir qu'interviennent sur le tarmac de l'aéroport qui est donc mis à sac, les blindés de la gendarmerie qu'on a retrouvés à Notre-Dame-des-Landes et désormais sur les Champs-Élysées. Donc ça c'était donc il y a 20 ans maintenant. Et donc ils sont déjà sur place sur l'atoll, quoi. C'est-à-dire que on sent que c'est des éléments de gestion un peu postcoloniale de ces espaces-là. Et à la fin du reportage, c'est les légionnaires qui arrivent, quoi. Et du coup, il y a quelque chose d'une sorte de, je trouve, de, oui, évidemment, une sorte de loi coloniale qui existe encore à ce moment-là, c'est que voilà, la France préempte un territoire et le fait régner par l'armée, quoi. Avec une armée qui ressemble franchement à une armée d'occupation. C'est-à-dire qu'envoyer la Légion contre une émeute, c'est quand même assez particulier, quoi.
Enfin, moi j'ai l'impression concernant le nucléaire, quand on s'intéresse un peu au sujet et surtout quand on se rend sur place, en fait, on se rend compte que l'armée est toujours là et de se rappeler que en fait le nucléaire il a été mis en place de façon complètement couverte et d'un point de vue médiatique il y a toujours eu une espèce d'omerta. J'avais rencontré des personnes qui avaient fait des reportages sur différents sujets et assez régulièrement, en fait, quand ça passe à l'antenne, il y a les directions des ministères, etc., qui débarquent chez les directeurs de publication ou des chaînes en disant tel reportage ou tel truc, en fait, vous le repassez pas, quoi. Et donc, il y a vraiment un truc de faire en sorte que ça se sache pas, que toutes les décisions soient faites et soient prises en dehors de toute visibilité, de comprendre qu'est-ce que c'est exactement le nucléaire et qu'est-ce qui est mis en place. Et d'ailleurs, Chirac, il dit ça, il dit que en fait c'est une paix qui est fondée sur la dissuasion et en fait c'est ce truc de genre en gros on vous garantit la paix mais on vous dira pas en fait ce qu'on met en place derrière. Et la réalité c'est la militarisation en fait de bouts de territoire entier et exposer des habitants, des populations à des pollutions assez hallucinantes, quoi, de l'irradiation ou même quand on voit Rouen comment ça se passe et le discours qui est posé là sur l'usine Lubrizol qui est en train de cramer en ce moment, enfin c'est juste complètement hallucinant, quoi.
D'ailleurs, ça nous permet de faire la transition. Un territoire militarisé, des déchets nucléaires, des habitants et habitantes soumis à la fois donc, à une loi d'exception et à la menace de la contamination. Ça nous permet d'enchaîner avec Bure, dans l'est de la France. Comme nous avons annoncé en début d'émission, revenir sur le premier grand rassemblement féministe et antinucléaire. Je vous laisse présenter donc, ce qui s'est passé il y a deux week-ends.
Ouais, du coup, non, on est venu parce que vous nous avez invités, mais on est deux personnes parmi un groupe bien plus large et surtout qui était parmi les 500 personnes qui sont rassemblées. Donc, c'était il y a deux semaines, à côté de Bure. Et bien sûr, forcément, il n'y a pas eu de reprise médiatique de ça ou très peu, etc. Même, j'ai envie de dire, dans les réseaux militants anti-nucléaires, ce qui est un peu surprenant, mais peut-être que c'est la dimension de mixité choisie et qui en a frustré certains, certaines. Je dirais plutôt peut-être même certains. Du coup, juste pour donner un peu un ordre d'idée de ce que c'était, on s'est dit que de lire l'extrait du texte d'appel qui avait été envoyé et diffusé, auquel du coup 500 personnes ont répondu.
Oui, on vous écoute.
À Bure, l'État veut enfouir les déchets les plus dangereux du système nucléaire français pour les cacher loin de nos yeux. Dans l'Est de la France ou ailleurs, nous refusons cette politique de l'oubli. Nous ne voulons pas qu'ils sacrifient des territoires entiers, polluant des sous-sols pour des centaines de milliers d'années. Nous refusons la banalisation de la vie contaminée. Nous n'acceptons pas que la menace de sa pollution perpétuelle soit occultée. Nous ne voulons pas du nucléaire.
Cette industrie, invisibilisée parce qu'insupportable, irradie des milliers de travailleurs et travailleuses dans le turbin des centrales, exproprie des Nigériens et des Nigériennes et des Aborigènes pour faire place à des nouvelles mines d'uranium, pollue autour de chaque installation et, chaque décennie dans le monde, cause une catastrophe qui dépasse l'entendement.
À Bure, depuis 25 ans, la résistance s'organise. Cette détermination se heurte aujourd'hui à une répression qui a pris une tournure intolérable. Les opposantes au projet d'enfouissement des déchets radioactifs sont épiées, intimidées, placées sous contrôle judiciaire, perquisitionnées, brutalisées, empêchées de mener une vie quotidienne sereine.
Nous appelons à converger le week-end du 21 et 22 septembre 2019 en mixité choisie, sans hommes, cisgenres, pour affirmer de tous nos corps, avec celles et ceux qui luttent à Bure et ailleurs, notre opposition au nucléaire et son monde.
Une mixité choisie que nous portons avec colère et détermination face aux privilèges masculins qui perdurent. Depuis trop longtemps, des hommes cisgenres décident, organisent, prennent la parole sans nous et à notre place, dans les milieux militants comme ailleurs. Nous aspirons à inventer des moments et des luttes créatives, amusantes, émancipatrices, tout en étant attentifs et attentives aux multiples rapports de domination qui nous traversent, cherchant à les dépasser et à les combattre dans nos pratiques et nos lieux de vie.
Parce que sans que nous l'ayons choisi, les déchets nucléaires proviennent de l'électricité que nous consommons pour chauffer nos maisons, allumer nos lumières, téléphoner ou utiliser Internet. Nous nous révoltons contre le sacrifice des territoires ruraux, de nos liens avec les forêts défrichées, les sols troués, les sous-sols réduits à la condition de ressources. Nous puisons la force et le désir de défendre les terres, l'air et l'eau qui font le vivant. Face à un horizon nucléaire présenté comme indépassable, nous affirmons le désir d'une existence affranchie de la démesure industrielle, d'une production pensée à l'échelle de nos vies et à partir de nos besoins et non ceux de la croissance. Nous défendons la possibilité de décider collectivement ce que nous voulons produire et de trouver des manières de vivre qui se passent de sources d'énergie aliénantes.
Très bien. Alors, donc nous, on n'y était pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce week-end ? C'était organisé ? Comment c'était autour de séminaires ? C'était autour d'actions ? Comment ça s'est déroulé un peu ce week-end ? Et quel était un peu l'enjeu du week-end, du coup ?
Le programme est en ligne. Du coup, il y a un blog qui est toujours alimenté et qui va aussi permettre à pas mal de personnes présentes ou pas d'avoir accès à un peu des récits et des suites de ce qui s'y est passé. Et le blog, c'est bombesatomiques.noblogs.org. Alors sur noblogs.org, je ne sais jamais l'orthographe, mais voilà, il faut juste retenir bombes atomiques au pluriel. Voilà, c'est un peu le nom que s'est donné le groupe et du coup qui au final a aussi, enfin voilà, de s'appeler des bombes atomiques. Voilà.
Et sur l'organisation du week-end, c'est un week-end qui s'est voulu le plus inclusif possible, donc avec différents moments. Voilà, on a organisé aussi des moments qui permettaient à tout le monde de venir. Des moments conviviaux, une pièce de théâtre géniale, des soirées, mais aussi voilà, des discussions et voilà, chacune pouvait venir selon voilà, ses désirs et aussi prendre en charge les personnes qui par exemple ont des enfants, ce qui est rarement pris en compte dans le milieu militant, mais qui est une réalité de beaucoup de femmes, par exemple de mères de famille.
Ok. Est-ce que vous pourriez revenir un peu rapidement sur le lien entre féminisme et antinucléaire historiquement, c'est le premier rassemblement de ce genre en France. Est-ce qu'il y en a eu ailleurs
Alors, grosso modo, en France, enfin, je ne sais pas si c'est le premier ou pas, je crois que ce n'est pas tout ça qui m'intéresse, moi, personnellement, mais c'est ce qu'on nous dit. Après, il y a clairement une filiation qui est aussi... En fait, grosso modo, dans le groupe qui était à l'origine du rassemblement, on est un peu... Enfin, il y a des parcours et des portes d'entrée différentes. Et entre autres, il y a des personnes qui, du coup, enfin, en gros, faisaient référence, et c'est un peu évident, au mouvement des femmes dans les années 70, et notamment de Greenham Common, où, en gros, des femmes ont occupé pendant, je crois, un ou deux mois, une usine nucléaire. Enfin voilà, en s'enchaînant, en étant autour, etc. Et de, du coup, vraiment prendre le temps de vivre et d'empêcher, enfin, sur place. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y avait aussi l'envie de, sans forcément renier cette filiation, parce qu'en fait, elle nous est importante aussi dans le sens où rappeler que le nucléaire, c'est en fait, c'est une aberration d'un point de vue, enfin, en fait, l'industrie en général et en particulier le nucléaire sur ce que ça implique en termes de risque, sur le niveau d'expertise que ça demande, en fait, et avec un discours, et notamment, en fait, un État nucléaire patriarcal qui continue à nous dire que le nucléaire, c'est sûr, c'est propre, c'est la meilleure solution face au réchauffement climatique, etc., etc. Enfin, il y a vraiment tout un truc comme ça qui, enfin, en fait, faisait beaucoup écho sur, en gros, rappeler que, en fait, le nucléaire, c'est une industrie qui est mise en place dans un État capitaliste patriarcal et qu'en fait, nos luttes, elles s'inscrivent là-dedans. Et je pense qu'il y avait aussi la volonté pour les personnes au début, de, en fait, dans cette idée d'un rassemblement quelque part sur place, c'était d'aller se rendre compte, en fait, de, plutôt que de continuer à passer par des médias ou pour certaines d'être dans des réseaux militants où, en fait, on va être beaucoup dans des discussions, des soirées, etc. C'était de se déplacer sur place et de venir, en fait, d'être présente. Sachant qu'en plus, grosso modo, les dernières manifestations qui sont faites dans l'Est, elles ont été énormément réprimées, quoi. Que ce soit judiciairement, mais même en termes de blessés et de personnes physiquement atteintes, quoi.
Ou quasiment interdites, comme la manifestation de Van Buur, donc le week-end dernier, qui était, on a vu les images complètement corsetées par la police.
Et je pense, si je peux rajouter, par rapport à la mixité choisie, effectivement, il y a ce côté vraiment politique au sens général. Et il y a aussi un côté, la façon dont on milite est politique. Et dans les espaces militants, antinucléaires ou écologistes, de manière plus large, voilà, on n'est pas sans reproduire les oppressions. Et malheureusement, c'est des milieux aussi où c'est beaucoup les hommes cisgenres qui prennent la parole, qui prennent les décisions. Et les autres personnes, femmes et minorités de genre, qui sont bah voilà, assignées à des tâches logistiques, de prendre soin des autres sur le plan émotionnel. Et en fait, on voulait aussi s'organiser d'une manière qui dépasse ça, même si à nouveau, on ne peut pas ne pas reproduire des oppressions au sein des collectifs. Mais en tout cas, on voulait dépasser ça et se dire on peut s'organiser ensemble et au moins cette oppression-là, on n'aura pas à la vivre, quoi.
Je pense qu'au-delà de la dimension juste féministe et antinucléaire, c'était l'envie de s'inscrire aussi dans une logique aujourd'hui de lutte intersectionnelle et de rappeler aussi que, en fait, on l'a vu là avec aussi de se rappeler que c'est aussi, s'inscrire dans des luttes antiracistes, anticoloniales, que de lutter contre le nucléaire. Parce que, en fait, c'est pas juste se déplacer un week-end entre 500 personnes dans la Meuse. Mais c'est aussi, en fait, s'inscrire contre, en fait, plein d'autres luttes, enfin, avec plein d'autres luttes contre des logiques qui sont mises en place partout, en fait, dans le monde, et en particulier par l'État français.
Est-ce que pour toi, enfin, pour vous, justement, le fait de s'organiser en non-mixité est une des conditions qui permet, justement, de penser globalement ces questions-là? C'est-à-dire que, est-ce que, on va dire, ceux qui ont l'habitude de mener les luttes et les diriger, à savoir donc plutôt des hommes hétéros, blancs, en général, du coup, sont sur une lutte particulière et ne peuvent pas forcément voir peut-être que ces luttes, en fait, elles sont peut-être nécessairement intersectionnelles parce qu'elles concernent, en fait, il y a des liens qui peuvent se faire, par exemple, je ne sais pas si sur la question nucléaire et la question coloniale, par exemple, à quel point des personnes qui sont soit qui habitent dans les anciennes colonies ou actuelles colonies sont peut-être les plus à même d'en parler. Enfin, je ne sais pas, toi, comment tu vois cette importance d'une certaine non-mixité quelle qu'elle soit, dans la possibilité de penser les caractères transsectionnels de ces luttes.
Je pense que ce qui est dit dans le texte, et c'est pas tant l'envie de s'organiser absolument sans des camarades hommes cisgenres, mais pour cette occasion, en fait, se réapproprier des lieux, en fait, sans être dans un truc à rappeler systématiquement que, en fait, certaines personnes ont des privilèges parce qu'on est dans un système qui nous a privilégiés pour x ou y raison. Et du coup, il y avait, grosso modo, dans le groupe, on n'est pas que des personnes qui s'organisent exclusivement en mixité choisie. Il y a des personnes pour qui c'était la première fois, il y a des personnes qui le font ponctuellement, il y a des personnes pour qui c'est nécessaire, en fait, pour qu'elles se sentent à l'aise dans leur militantisme. Ça ne veut pas dire que ça s'inscrit en opposition à d'autres trucs. Et d'ailleurs, moi, je pense que, en fait, les ponts et la dimension... colonialiste, en fait, du développement du nucléaire, etc. Ça a été mis en lumière par plein d'autres groupes, et notamment par des hommes cisgenres, enfin, qui portent des discours qui sont, pour moi, je trouve, politiquement entendables, quoi. Enfin, même pertinents.
Dans le premier sujet, donc, le petit reportage qu'on a entendu en début d'émission sur les manifestations du 21, la manifestation Gilets jaunes Marche Climat, on entend une manifestante qui parle de la place particulière des femmes dans la catastrophe écologique en cours. Est-ce que vous avez quelque chose à préciser là-dessus?
Du coup, c'est vrai que les femmes sont généralement les premières impactées par les catastrophes écologiques. On estime que les femmes ont 13 fois plus de chances de mourir lors d'une catastrophe écologique, et ça tient à leurs assignations de genre, quelque chose de tout bête auquel on ne pense pas avec notre privilège d'occidentaux, mais les femmes dans beaucoup de pays sont celles qui vont chercher l'eau et la nourriture, et elles font des kilomètres, et donc s'il y a sécheresse, elles font des kilomètres de plus et parfois ne reviennent pas. Les femmes se privent de nourriture afin de nourrir leurs conjoints et les enfants en premier. Donc c'est les premières qui meurent quand il y a famine. Ce sont les femmes qui meurent bien plus que les autres. Et après, pour sortir un peu de cette idée de victime, mais qui est statistiquement tout à fait vraie. Et le nucléaire, on peut en parler aussi des maladies, par exemple, de la thyroïde qui touchent les femmes et qui sont les premières maladies causées par la radiation. Mais au-delà de ce côté victime qui est factuel, c'est souvent aussi énormément de luttes qui sont menées par les femmes, qui sont invisibilisées dans les luttes, quelles qu'elles soient, et du coup, qui sont mobilisées et qui essayent de reprendre leur place au sein de ces luttes pour parler de la façon dont elles veulent les mener.
Oui, mais en fait, il y a même... C'est comment dans le reportage, en fait, on n'en a mis qu'une, parce qu'on n'allait pas faire un reportage qui était trop long, mais c'est-à-dire qu'on a interviewé un certain nombre de femmes gilets jaunes, et toutes, elles portaient un discours assez hallucinant, hyper construit, sur la catastrophe écologique en cours, quoi. Et c'était vraiment formulé, en plus, dans des termes qui étaient vraiment à la fois sensibles et hyper construits, quoi. Avec, en fait, les gilets jaunes, enfin, nous, femmes gilets jaunes, on est forcément... écolo, et c'est normal qu'on soit là, puisque en fait c'est une catastrophe en cours, avec un truc aussi de là pour deux qu'on a entendu, qui était en fait on a des enfants aussi, et il y a une catastrophe qui est en cours, et on voudrait pas qu'ils y restent, quoi. Enfin, et quand on évoquait au début la lutte anti-nucléaire, donc plutôt en Angleterre, qui était portée par des femmes, c'est aux États-Unis,
je suis pas sûre,
ouais, mais, enfin peut-être c'est les deux, mais ouais, et que comment dire. C'est une émission qu'on avait fait et qu'on avait essayé un peu de sortir un peu sur la question écoféminisme et nucléaire, mais comment aussi il y a comment des groupes de femmes ont une appréhension particulière de ces questions-là, assez sensibles, en fait. Je suis toujours pris un peu dans un peu une contradiction entre ne surtout pas naturaliser, en fait, c'est ça, la position de mère qu'aurait peur pour ses enfants et tout ça. Et en même temps, reconnaître quelque chose de peut-être un peu particulier, des formulations particulières d'une prise, d'une prise en charge environnementale qui est peut-être un peu différente, et sans naturaliser la chose.
Oui, je pense qu'il y a un truc de... Enfin, c'était important pour nous parce que... Enfin, en fait, c'est évident, en fait, de ne pas tomber dans une essentialisation, en fait, de dire c'est la femme qui est victime parce que la femme, c'est la nature, etc. Enfin, en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Et même, c'était important pour nous, en fait, de sortir de ce truc-là, en fait, et de se dire que, en fait, c'est une catégorie qui nous est assignée, qui peut être choisie ou pas, qui peut être subie ou pas, que, en fait, on est vraiment toutes différentes, dans le sens où, en fait, on n'a pas toutes les mêmes situations sociales, les mêmes... On n'est pas forcément armés de la même façon pour lutter contre différentes oppressions, etc. Et là, l'idée, c'était de se retrouver ensemble, mais dans un sens large, je sais pas, genre les femmes, selon... En fait, c'est pas nous qui définissions les critères. D'ailleurs, en fait, dans l'appel, c'était clair, c'était en fait en mixité choisie, 100 mecs, 6. C'est-à-dire que, en fait, toute personne qui se reconnaît, et c'était pas un regroupement de femmes, en fait, c'était meufs, trans, hommes trans, personnes binaires. Enfin, en fait, c'était vraiment. Enfin, il y avait. C'était beaucoup plus large. Et dans une réflexion aussi de se rappeler que, en fait, les systèmes d'oppression, c'est aussi une société hétéro-cis normée dans laquelle on vit, c'est-à-dire en gros. Toute personne qui ne se reconnaît pas dans une forme d'hétérosexualité où en gros quand on a un sexe féminin on est une femme, quand on a un sexe masculin on est un homme et du coup on doit coller à plein de valeurs et plein de normes dictées, en fait ce sont des formes d'oppression et pour nous c'était aussi remettre ça en avant. Alors au niveau du groupe on était clairement des femmes cisgenres à la base, mais l'envie vraiment de sortir de ce truc là et de questionner en fait c'est quoi cette essentialisation. Voilà, peut-être dans les années 70, certaines personnes se retrouvaient dedans, mais que nous, on n'a pas du tout non plus envie de se limiter à ça, quoi.
Et oui, parce qu'en fait, du coup, il n'était pas uniquement question, on va dire, d'une oppression des femmes dans les luttes. C'est quelque chose de peut-être plus large que vous voyez. Enfin, et il y en a peut-être d'autres discussions. Je ne sais pas si vous avez un peu, qu'est-ce qui en est ressorti. On a un teaser ou on n'a pas le temps ou...
Sur un de, peu sur ce ah oui, non, mais peut-être on peut aussi parler juste peut-être du rassemblement en oui, tant que tel.
Oui, bah oui.
Parce que du coup, on s'est retrouvé à 500 personnes, ce qui est assez surprenant. Enfin, pour avoir une idée, en fait, les derniers rassemblements qui s'étaient faits dans l'Est, donc en gros, ça faisait un an et demi qu'il n'y avait pas eu d'aussi gros rassemblement, et il y a eu une marche qui a eu lieu. Donc 500 personnes ont marché sur le territoire de l'ANDRA, parce que donc l'ANDRA, qui est l'Agence nationale de traitement des déchets radioactifs, qui s'est accaparé une énorme partie de territoire là-bas, et qui, conjointement avec la gendarmerie nationale et... Enfin voilà, en fait, a vraiment mis un espèce d'étau sur le territoire et qu'aujourd'hui, très peu de personnes se sentent assez à l'aise pour y venir, y habiter, y lutter. Et du coup, c'était l'envie d'y aller ensemble et donc on s'est retrouvés à 500 personnes. Et c'est en gros le nombre de personnes qu'il y avait eu sur les dernières manifestations, même au moment de l'occupation du Bois-le-Jus, etc. Enfin, c'était voilà, entre 500 et des fois, il y a eu 1000 personnes, mais... Donc voilà, c'était pas rien d'être aussi nombreuses et de pouvoir marcher dans des endroits où aujourd'hui, en fait, quand on y va, on risque de perdre un pied, on risque de perdre d'autres membres. Enfin, en gros, concrètement, la police, elle tue, elle mutile et elle blesse partout et dans la Meuse et en Haute-Marne aussi. Donc voilà, et du coup, ce qui est assez surprenant, c'est... sur les stratégies employées, sur le... concernant le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté, comme on était un rassemblement de femmes, ou en tout cas sans hommes cis, on n'a pas eu un déploiement d'énormément de fourgons, de GM qui étaient casqués, etc., etc. Mais c'était un truc beaucoup plus insidieux, au final, où en fait il y a eu 4 hélicos mobilisés à cette marche-là, pour information sur les autres marches, je crois qu'il n'y a jamais eu plus de 2 hélicos. Enfin, c'était 2 ou 3, ce qui est déjà assez fou quand on regarde en termes de moyens ce que ça demande. Plus un planeur, plus énormément de voitures. Alors, le planeur, c'est un truc quotidien là-bas, en fait. Enfin, quotidien dans le sens où il est là quasiment systématiquement et puis il s'amuse à survoler certains lieux de vie à des moments où... Enfin, voilà. C'est vraiment ce qu'on disait dans le texte, quoi. C'est qu'il y a une espèce de surveillance généralisée qui est appliquée. Et là, ils ont mis le paquet, mais vraiment. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, on leur fait peur d'une certaine façon. Et ils sont vraiment dans ces logiques d'hypersurveillance, de fichage, de nous maintenir à distance, etc. Et je pense que le choix de la marche était vraiment de ne pas chercher la confrontation. C'est-à-dire qu'en fait, on y va à déterminer. Et en fait, on a prévu d'aller à tel endroit et on va y aller. Mais pas être dans une recherche de confrontation et d'affrontement qui, en fait, a abouti à pas mal d'affrontements qui ont dégénéré, qui ont traumatisé beaucoup, beaucoup de personnes. Et voilà, c'est aussi la possibilité de proposer à des personnes de venir marcher et de militer voilà, dans le contexte où aujourd'hui, quand on veut manifester, que ce soit en Meuse ou dans les manifs gilets jaunes ou comme ça a pu se passer le même jour à Paris. C'est en gros s'exposer à de la lacrymo, des tirs de LBD et compagnie, quoi.
Bah, le Ouais, le comment dire, c'est vrai qu'il y a, sans forcément réduire, on va dire, les émeutes à ça uniquement, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'assez viriliste dans les, un peu dans la nécessité de l'affrontement des fois, enfin quelque chose un peu comme ça. Alors on va pas discuter de la question stratégique de la chose, bon voilà, mais en tout cas il est sûr qu'il y a une dimension viriliste assez évidente à la manif, à la confrontation violente en manifestation qui est devenue, enfin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments stratégiques ou quoi, mais c'est vrai que pour certains, c'est une nécessité. On n'est quand même pas venu pour rien, quoi. Enfin, quelque chose
de... En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore une dernière chose à rajouter, mais en tout cas, ça ouvre vraiment beaucoup de pistes de réflexion pour toutes les militantes et tous les militants. Notamment cette question de l'intersectionnalité.
Peut-être parler des suites du rassemblement.
Oui.
Parce que donc la journée de dimanche était vraiment... c'est le rassemblement, le sous-titre, c'était « Surprise partie, avenir radieux ». Et du coup, il y a eu des temps de discussion et des envies justement aussi de discuter des stratégies, parce qu'on était aussi beaucoup à sortir avec une espèce de frustration de... En fait, on était 500, on était sur place. Et en fait, on leur a fait peur, mais concrètement, on n'a pas changé la face du monde où en fait, il y a un truc de... Voilà. Et du coup, de réfléchir aussi aux stratégies qu'on peut mettre en place. Et comment est-ce qu'aussi nous, on a, au-delà de ça, sur l'organisation mixité choisie, qu'est-ce que ça nous a apporté, etc. etc.
Je pense qu'il y avait des envies qui ont été partagées à ce moment-là, que voilà, c'était un beau début et que voilà, il fallait suivre la lumière des bombes atomiques pour l'avenir, pour un avenir plus radieux.
On lance les rendez-vous et puis on clôture ça. Alors, d'abord, peut-être un petit remerciement à Lina qui nous a permis de choper les archives de certains trucs un peu cool qui changent de l'ordinaire pour faire les petits montages. Alors, il y a peut-être deux choses. Alors, la première, on s'excuse un peu de ne pas avoir pu parler de Rouen, qui est quand même là aussi la grosse actualité, et la deuxième avec la mort de Chirac. Qui est on aurait voulu avoir des témoignages un peu plus directs sur place qui passaient un peu au-delà du un peu à la fois du sensationnalisme et du message préfectoral habituel, et d'avoir quelque chose de plus fin, mais bon voilà, on n'a pas réussi à trouver les gens au bon moment, donc voilà, ça tant pis, mais peut-être à la prochaine on essaiera peut-être d'en parler. Et l'autre chose, c'est que le 5 octobre, donc dans deux jours si je ne m'abuse, des différents groupes proposent une occupation. Alors c'est organisé par Extinction Rébellion et différents groupes Gilets jaunes. Alors on n'est pas forcément... il faudrait qu'on en discute entre nous, mais c'est-à-dire que Extinction Rébellion, on n'est pas forcément tous hyper chaud. Par contre, la proposition commune avec les Gilets jaunes mérite quand même d'être évoquée. Et je vous renvoie quand même sur... Il y a un appel donc, commun qui a été publié sur différents médias indépendants. Le texte, à part ça, est plutôt pas mal. Et je renvoie sur un article publié dans Paris Lutte qui est assez bien aussi et qui est une position que j'ai lue, dans laquelle je suis un peu retrouvé, en mode on n'est pas vraiment d'accord avec eux, mais il se trouve que ce qu'ils proposent à ce moment-là de convergence ou quoi peut être intéressant, ça peut valoir le coup. Alors, bon, évidemment, personne ne sait rien, voilà, y compris nous, surtout nous, et par contre, on se tient au courant, voilà. Alors, je ne saurais même pas trop comment vous dire, comment savoir le moment donné, ce qui va se passer et où ce sera. Il faut se tenir au courant, voilà. Je pense que ceux qui tiennent au courant sauront. Moi, je ne sais même pas comment on fait, mais c'est le 5, c'est le samedi, je pense.
C'est le samedi, hein. C'est parce que juste le 5 octobre, moi,
oui,
ça ne parle pas.
Oui, c'est ça,
du
oui,
coup,
c'est
si
samedi,
c'est samedi prochain...
Voilà, on n'en sait pas plus que ça, mais voilà.
Je crois que sur le site d'Extinction Rébellion, il y a une adresse à contacter pour avoir des infos.
D'accord. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va du coup terminer sur ça. Alors, rappelez donc les adresses. Alors, c'était donc les bombes atomiques.
C'est bombes atomiques au pluriel. noblogs.org. Enfin, cela dit, après, vous mettez bombes atomiques dans un moteur de recherche, vous retrouvez. Après, il y a d'autres sites qui valent le coup, notamment sur ce qui se passe à Bure, c'est burburbure.info. Après, il y a celui de la cohorte Stop CGO. Alors, je ne sais plus exactement. Mais voilà, il y a moyen de se tenir au courant de ce qui se passe là-bas sur place et concrètement, de suivre un peu aussi les événements. Il y a des chantiers qui vont s'organiser là sur la maison de résistance à Bure du 21 au 26 octobre, et ça fait aussi partie des retombées. C'est-à-dire que sur ce rassemblement, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient jamais vues sur place et qui, du coup, là, en fait, ont envie aussi de s'impliquer un peu et d'être présentes, et ça permet de permettre que les personnes sur place soient moins isolées. Quoi.
Ouais, pour relancer peut-être un peu la vie sur place. Très bien. Et bah, on vous remercie d'être venu.
Merci beaucoup donc, à nos invités, merci beaucoup aux techniciennes. Et donc, c'était Zoom Écologie. On vous dit à jeudi dans deux jeudis.